Le Machicon sur la suite du débat et en parole nationale.
Oui, alors la suite du débat aussi bien sur le volet de la loi NOTRe que sur l'élément qu'a introduit à juste titre Jacques relevant de la charte d'engagement réciproque, puisque l'un des premiers actes, sinon le premier acte de la déclinaison de la charte au niveau national, c'est la parution prochaine d'une circulaire du Premier ministre qui va définir les conditions dans lesquelles les subventions, suite à la loi notamment de l'ESS qui les a définies légalement, les subventions peuvent être attribuées aux associations. Alors, sur la loi NOTRe, deux, trois éléments complémentaires à ce qui vient d'être indiqué. La position d'abord du mouvement associatif national, qui est toujours aujourd'hui pleinement actuelle, même si elle date en fait de mi-2014. Et rendons à César ce qui appartient au mouvement associatif Pays de Loire. C'est le mouvement associatif Pays de Loire qui, le premier, a exprimé une position politique, des propositions pour une position politique, je crois à l'automne 2014. Et je vous en rappelle les principaux éléments, parce que le mouvement associatif national s'est inspiré de ce que vous aviez travaillé pour définir sa position. Premier élément, oui, effectivement, nous sommes toujours et encore favorables à une compétence partagée pour la vie associative, parce que notre crainte, c'est qu'avec la disparition de la compétence générale, la vie associative disparaisse, surtout au moment où les financements publics se raréfient, pas seulement au niveau de la réduction imposée par Bruxelles et par la nécessité de réduction des déficits publics nationaux, mais aussi au niveau de la charge que portent les collectivités territoriales aujourd'hui, d'autant qu'elles ont pris le relais de l'État dans un certain nombre de domaines. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, que disons-nous aussi ? Nous disons le financement de la vie associative en tant que telle, par rapport à l'ensemble des budgets des collectivités, c'est peanuts, si vous me permettez l'expression. L'argument d'une économie d'échelle par la fusion des régions qui a été employée pendant un certain nombre de mois, qui est un petit peu moins employé aujourd'hui d'ailleurs, ne vaut pas pour la vie associative par rapport au budget que ça représente, si on compare avec les budgets de développement économique de la région, ou les budgets transport du département ou des collèges, etc. Troisième élément, faire valoir toutes les initiatives que mène la vie associative, et elle les mène à tous les échelons territoriaux, et pas simplement de manière sectorielle, par exemple ici dans le domaine du tourisme, ici dans le domaine de l'éducation populaire, ici dans le domaine du médico-social, mais de manière transversale, c'est-à-dire la mobilisation de l'engagement citoyen, la capacité à prendre de l'initiative et à innover, la capacité à former du collectif. Donc autant d'éléments d'animation des territoires et d'activation du lien social qui ne sont pas forcément catégoriels ou sectoriels. Cette position, que je vous résume là, hein, a été évidemment portée par les uns et les autres au niveau des parlementaires, des députés, mais également au niveau de la ministre. Et là, précisément pour compléter, la dernière rencontre avec Marie-Lise Lebranchu, par la présidente nationale, moi-même et notre délégué général, date d'hier après-midi. Donc c'est vous dire qu'on est à surveiller le lait sur le feu. La vie associative dans la compétence partagée, c'est pas gagné du tout. Sur un argument qu'avait d'ailleurs employé Marie-Lise Lebranchu à l'Assemblée nationale, le spécifier dans une compétence, qu'elle soit obligatoire ou partagée, représente le risque que du coup, ce soit consacré à telle ou telle collectivité qui se renvoie la balle et ne soit pas effectivement dans une dimension transversale. Et la comparaison qui nous est donnée par la ministre et son conseiller à la réforme territoriale, c'est de dire c'est comme si on voulait mettre l'égalité femmes-hommes dans une compétence, qu'elle soit partagée ou spécifique. On ne va pas mettre l'égalité hommes-femmes dans une compétence pour le conseil général ou pour le conseil régional, parce que de toute façon, la politique en matière d'égalité femmes-hommes, elle est transversale à tous les secteurs, et n'importe quelle collectivité peut prendre aujourd'hui, y compris avec l'abandon de la compétence générale, l'initiative de soutenir cette égalité femmes-hommes, ou la compétence jeunesse, ou la dimension vie associative, si elle le souhaite. Ça relève non pas de la loi et de la définition par la loi, ça relève du choix politique pour les collectivités auxquelles ça ne sera pas interdit. La ministre d'ajouter, de surcroît, qu'il y a aussi d'autres portes d'entrée dans les compétences actuelles, et elle donne un exemple, sur les départements, la compétence de solidarité territoriale donnée aux départements permet à ces départements de soutenir la vie associative. Donc ne vous inquiétez pas, nous dit-elle, la préoccupation du gouvernement est bien là nous la défendrons, y compris au moment du débat à l'Assemblée nationale, en dernière lecture, avant le vote, de façon à ce que ce soit inscrit dans le marbre. Dernier élément que nous donne aussi la ministre. Alors, quand je vous dis dernier élément, à hier, le débat n'est pas fini. La ministre s'est même engagée à continuer à discuter avec nous, mouvement associatif. C'est le passage par la conférence territoriale de l'action publique, ces conférences qui ont été prévues et actées dans la loi MAPTAM du 31 janvier 2014, qui permettent aux collectivités de se mettre autour de la table et ensemble, dans un domaine donné, de définir le soutien à ce domaine. Rien ne l'interdit dans la loi. La loi même le propose. D'ailleurs, de ce point de vue-là, nous sommes empressés de répondre à Madame la Ministre qu'il serait souhaitable que ces conférences territoriales puissent entendre les acteurs associatifs et qu'on ne voit pas les dérives qu'on a pu voir dans certains conseils de développement par le passé, où il y avait en fait une place donnée normalement aux acteurs associatifs, mais où la discussion se passait surtout entre les acteurs économiques et les acteurs, enfin, et les élus politiques. Voilà, donc c'est du tout chaud, si j'ose dire. C'est pas fini. Comme Jacques l'a expliqué, on va vers le vote de l'Assemblée nationale en dernière lecture pour probablement la deuxième quinzaine de juin, voire début juillet. Et on sera évidemment vigilants. Et entre maintenant et le mois de juin-juillet, on s'efforcera de continuer à négocier. Ce que je peux peut-être ajouter à titre de réflexion, là je quitte un petit peu l'aspect purement législatif et négociation, c'est que ne perdons pas de vue que cette réforme territoriale, elle nourrit un certain nombre d'inquiétudes, mais elle représente aussi un certain nombre d'opportunités et d'interrogations. D'abord, dans la reconfiguration des périmètres régionaux, même si les Pays de Loire sont quelque part préservés de cette reconfiguration, quoique, ça joue quand même sur l'aspect métropolitain ou intercommunalité, il y a un changement de place des acteurs. Il faut être conscient que ce changement de place des acteurs ne se fait pas simplement du côté justement de la puissance publique, mais va inévitablement impacter les acteurs associatifs. Comment des organisations associatives comme les nôtres, organisées depuis longtemps sur le modèle de l'État, donc sur un modèle jacobin, ne pourraient-elles pas se poser à cette occasion des questions sur la manière d'organiser leurs ressources et de partager un certain nombre de moyens et de réflexions, ce que font déjà bon nombre de fédérations et de coordinations, mais de manière à les conjuguer sur des périmètres géographiques qui, de fait, vont bouger et qui, de fait, bougent déjà depuis un certain nombre d'années. Donc là, il y a quelque chose dont il faut qu'on soit conscient, dans le sens où on a la main. On n'est pas là simplement pour subir la loi. Deuxième élément, il y a un changement de rôle. C'est-à-dire que, évidemment, autour de cette question des compétences, on ne va pas pouvoir simplement raisonner en termes de compétences catégorielles et de champs d'intervention, mais bien qu'est-ce qui nous est commun à nous tous. Et ça, c'est le propre du mouvement associatif. Alors, je ne voudrais pas dépasser mon temps. Je suis toujours un petit peu trop bavard alors que moi-même, je dois m'éclipser et je m'en excuse par avance. Sur la charte d'engagement réciproque, le premier acte, c'est la déclinaison, justement, par la circulaire dite pour l'instant JEPVA, pour Direction Jeunesse Éducation Populaire Vie Associative, circulaire qui devrait être signée déjà depuis un certain temps par le Premier ministre, qui va être normalement signée avant l'été. Cette circulaire, elle est d'un enjeu conséquent, parce que derrière le vote de la loi ESS du 31 juillet 2014, qui définit légalement pour la première fois en France la possibilité d'octroyer des subventions, il vient avoir les conditions de l'instruction et de la délivrance de ces subventions. Et c'est un enjeu important parce que si la circulaire va être opposable à l'ensemble de l'administration d'État, elle va être simplement incitative et non opposable aux collectivités territoriales. Il s'agira que les collectivités territoriales s'en saisissent. Il s'agira que nous, acteurs associatifs, on s'en saisisse suffisamment pour inciter les collectivités territoriales à cesser de recourir à la commande publique sous réserve de sécurité juridique, notamment sous l'influence de la législation européenne, mais bien s'empare de cette possibilité de donner des subventions. Le climat de négociation avec le ministère et la JEPVA globalement a été satisfaisant parce que nous sommes dans l'esprit de la charte, parce que la JEPVA a réuni dans une table large au niveau national toutes les administrations de l'État. bien sûr la direction générale des collectivités locales, bien sûr Bercy, bien sûr les affaires sociales, etc. Je vous les détaille pas. Donc on a eu une négociation très ouverte. Le tronc commun, la circulaire va être composée d'un tronc commun, une lettre politique d'intention et de 5 annexes. Je vous en fais pas le détail, ce serait beaucoup trop long. Mais le tronc commun, dans l'état d'esprit, est satisfaisant. Là où les choses ont eu tendance, à un certain moment donné, entre guillemets, à se gâter, c'est quand on commençait à descendre au niveau des 5 annexes. Une annexe définissant les instructions, deux autres annexes donnant des modèles de convention pluriannuelle d'objectifs, une quatrième annexe donnant un certain nombre de recommandations administratives, et une cinquième définissant le rôle des délégués départementaux à la vie associative et des futurs délégués régionaux à la vie associative. Sur quoi avons-nous travaillé ? Sur le vocabulaire. La sémantique était, de notre point de vue, trop descendante, trop administrée, voire en rapprochement avec des opérateurs et des entreprises. Nous avons tiré le curseur vers la vie associative et ses valeurs. Deuxième élément, la simplification. Le langage restait complexe, sous influence de la législation européenne, voire faisait une exégèse du droit européen. Le droit européen existe. Le paquet Almunia-Barnier, qui aujourd'hui vaut pour définir les services sociaux d'intérêt économique généraux, existe. Il suffit de s'y reporter. Nous nous sommes efforcés d'alléger la circulaire au plus de ces éléments-là. Nous y sommes parvenus en partie, mais pas complètement. Nous avons aussi gagné sur le terrain de la définition de ce que l'on appellera dorénavant probablement le recueil d'initiatives. Pour qu'il y ait subvention, il faut que l'initiative parte des associations et de leurs projets. Pas d'un cahier des charges ou d'une politique définie par la seule collectivité. Bien entendu, dans le cadre de la négociation pour monter une convention pluriannuelle d'objectifs, il y a négociation entre les choix politiques de la collectivité et les choix associatifs pour voir les zones de recouvrement. Mais l'initiative doit partir de la vie associative. Nous sommes aussi intervenus sur l'impératif démarche d'évaluation, non pas construite par l'administration des collectivités ou par l'État, mais co-construite avec les associations, non pas après l'action, mais en amont de l'action, qu'on se mette d'accord sur ce que l'on veut réaliser, les objectifs, comment on va les réaliser, et sur quels critères et indicateurs on va les évaluer, de façon à ce qu'on ne soit pas dans une logique de contrôle, mais bien dans une logique de co-construction. Et enfin, nous avons travaillé, et quand je dis enfin, c'est vraiment un résumé et non exhaustif, mais après vous vous reporterez à la circulaire et on ne se privera pas de faire un accompagnement en lien avec bien sûr le mouvement associatif dans l'ensemble de ses composantes, c'est sur la question justement des relations avec les administrations et avec en particulier les directions régionales de jeunesse et sport et de la cohésion sociale et leurs délégués régionaux à la vie associative et délégués départementaux pour que l'animation, l'incitation, l'impulsion, l'accompagnement du développement associatif ne partent pas que des seuls délégués départementaux, délégués régionaux, mais se conjuguent avec l'action de nos fédérations, de nos réseaux qui ont du savoir, du savoir-faire et de l'expertise en la matière. Nous ne sommes pas une administration de plus ou un bras armé de l'administration. Nous sommes en co-construction, en co-accompagnement, bien sûr en nous insérant dans les dispositifs publics, mais sans se priver, comme vous nous le rappeliez tout à l'heure, de notre liberté associative. Voilà, je ne veux pas faire plus long parce que je risque de dépasser l'horaire. Et une nouvelle fois, je m'excuse parce que je ne pourrai pas assister à la totalité de la table ronde. Je suis vraiment contraint de rejoindre Paris pour une réunion à partir de 20h. Donc je suis un peu coincé. Je vais avoir été heureux de vous rencontrer et d'entendre les différents échanges sur la partie au moins statutaire et très frustré de ne pas pouvoir participer pleinement au reste.
Merci Michel. Est-ce qu'il y a quelques échanges dans la salle, quelques questions, tant que tu es là aussi, avant que on puisse passer la parole à François Lacot et Nicolas Cardo qui nous a rejoints, donc, mais qui connaît le sujet, même s'il n'a pas entendu les éléments. Parce qu'avec la région, ce n'est pas la première fois qu'on discute effectivement d'une part de la politique de co-construction, ici en Pays de la Loire, et aussi du débat sur la réforme territoriale. On l'a déjà évoqué et on avait porté aussi au moment où Benoît Hamon était à Nantes il y a maintenant près de 2 ans, hein, bientôt, sur la notion de l'inscription de la subvention dans la loi et le comment, tu viens de l'expliquer, Michel, sur l'initiative associative, tu as parlé de recueil des initiatives, un travail de co-construction avec les collectivités pouvait permettre d'éviter des appels d'offres ou des appels à projets. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Sinon, on continue la table ronde. Michel ?
Oui, j'ai juste oublié deux éléments. Je suis désolé de reprendre la parole. Normalement, ça ne se fait pas. Mais la circulaire, la négociation est pratiquement finalisée, donc elle devrait être signée. Dans la circulaire, il y aura des modèles de convention et notamment le niveau de seuil des conditions dans lesquelles les subventions peuvent être octroyées seront précisées avec les modèles de convention. Et derrière la circulaire, il y aura la parution d'un guide qui, lui, n'est pas encore travaillé ou tout du moins tel qu'il nous a été présenté, nous ne l'avons pas considéré. En l'état actuel des discussions, hein, le guide nous a été envoyé là en début mai, ne nous paraît pas satisfaisant, voire parfois avec des éléments contradictoires sur la circulaire. Alors, il n'y a pas lieu forcément de s'inquiéter puisqu'il n'a pas encore été travaillé au fond, mais on va continuer la négociation pour évidemment nourrir et apporter des éléments. Et j'en profite aussi là pour vous remercier parce qu'un certain nombre d'entre vous avez contribué à alimenter le mouvement associatif pour qu'on puisse porter les choses au niveau du ministère.
Séparé des activités ou des prestations que les associations peuvent rendre ou pas ?
On est calé sur la définition de la subvention donnée par la loi ESS. D'accord. Donc on peut être aussi bien sur du financement lié au fonctionnement et à l'animation du réseau associatif, enfin de la vie associative dans ses dimensions générales, que dans des dimensions particulières de projets et d'activités. Par contre, pas de prestations, parce que si on était sur une logique de prestations ou de réponse à une demande de la collectivité ou de l'État, à ce moment-là, on serait non plus dans une logique de subvention, dans une dynamique de subvention, mais bien dans une logique d'appel d'offres, d'appel à projets, comme vient de le rappeler Alain, et donc, à ce moment-là, dans les créneaux de la commande publique. Alors, c'est difficile en peu de temps de rentrer dans les détails, mais de ce point de vue-là, les annexes de la circulaire, telles qu'ils sont en voie de finalisation, le précisent très précisément, enfin explicitement. Hein, et il y a toute une série d'éléments dans les annexes qui doivent aider. Pourquoi un guide ? Parce que, bon, voilà, on souhaitait que le guide puisse accompagner les collectivités, les associations, et on imagine évidemment avec les mouvements associatifs régionaux et les mouvements associatifs nationaux, de mettre en place, dès que la circulaire sera signée et le guide paru, des modalités d'information et de formation qui iront au-delà de cette première sensibilisation qu'on fait là un peu rapidement. Hein.
Ben, ça fait un peu suite, mais quid de la situation actuelle, puisque aujourd'hui on a vu se développer le recours massif au marché. Donc une collectivité, on va prendre, puisque Nicolas est là et qu'on a eu ce débat-là plusieurs fois avec lui, une collectivité a décidé pour une action lambda de passer par le marché, par un appel d'offres. Est-ce que la nouvelle donne permet de considérer qu'on met fin au marché et qu'on retrouve effectivement une logique qui serait une initiative associative, alors qui de fait doit être différente, bon, j'anticipe, hein, mais et qui permettrait effectivement, dans un certain nombre de cas, de sortir de cette logique-là. Je pense là, moi, directement au Conseil régional des jeunes. Nicolas va pas être surpris, puisque c'est le CRAJEP effectivement qui anime aujourd'hui les différents niveaux. Enfin voilà, dans le cadre d'un marché, ça a fait débat longuement. Il y a eu la même chose d'ailleurs sur la question de la formation des bénévoles, où à l'époque. on va dire, les fonctionnaires de la région poussaient à ce que ce soit un marché. Nous avons obtenu que ce ne soit pas un marché, effectivement. Mais voilà, comment on sort à un moment donné d'une situation qui aujourd'hui, effectivement, est très défavorable à l'initiative associative dans ce nouveau cadre-là ? Est-ce que ça a été évoqué et est-ce qu'il y a un espace au moins dans lequel on pourrait s'immiscer ?
Vous voulez répondre ou je peux répondre ? Peut-être après. Alors, bon, actuellement, on est toujours sur le régime de la circulaire du 18 janvier 2010, la circulaire dite Fillon. Hein, bon. Je suis content que vous donniez l'exemple du CRAJEP et du conseil régional Pays de la Loire. On a eu exactement le même exemple en Rhône-Alpes dans les années, justement, de 2010 pour l'organisation des assises régionales de la jeunesse, où le conseil régional, sous l'influence d'ailleurs de services juridiques et financiers, est parti sur une logique d'appel d'offres. Le CRAJEP, en lien avec la CPCA de l'époque, s'est tout de suite opposé en disant « nous, on ne prend pas ». Alors, bon, on a hésité quand même, hein, parce que bon, on était quand même l'interlocuteur dont on estimait qu'on avait des possibilités justement d'initiative, de proposition et de co-construction de ces assises. On a dit les choses suffisamment clairement et on a été suffisamment entendu pour passer de cette logique d'appel d'offres et de commande publique à la construction d'une convention pluriannuelle d'objectifs. Y compris, il a fallu démêler un petit peu les choses, parce que est-ce que c'était le CRAJEP qui prenait en charge la convention pluriannuelle d'objectifs ? Est-ce que c'était certains de ses réseaux membres ? Enfin, je vous passe les débats. Donc, ça reste possible. Pourquoi ça reste possible ? Et ça le sera d'autant dès qu'il y aura cette circulaire qui aura été signée par Manuel Valls. C'est parce que ça relève d'une part de l'initiative associative, alors à charge aux associations de faire valoir leurs initiatives. Je vais revenir sur le recueil. Et du choix politique de la collectivité. Mettons les élus des collectivités territoriales en face de leurs responsabilités. Que veulent-ils ? Sont-ils là pour soutenir l'initiative associative ou pour systématiquement l'encadrer et la définir sous les seules fourches codines de leur propre politique ? Alors même qu'il n'y a pas forcément opposition entre les positions, enfin, entre leurs choix politiques et les initiatives associatives. Il faut rechercher à travers la construction commune de la convention pluriannuelle d'objectifs les zones de recouvrement. Ça, la loi ne l'interdit pas. L'avantage par rapport à la circulaire Fillon, il est double. Aujourd'hui, la subvention est définie légalement et elle est euro-compatible. Ce n'était pas le cas avec la circulaire Fillon en 2010. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est opposable au moins à l'ensemble de la puissance publique. Ce qui n'est pas opposable, c'est que la circulaire signée par le Premier ministre, elle est valable pour les administrations de l'État, mais les collectivités territoriales restent souveraines. Elles ne sont pas obligées de l'appliquer. Elle est purement incitative. D'où la nécessité de la vertu pédagogique du guide et de la vertu pédagogique de nous, acteurs associatifs. Dernier mot sur le recueil d'initiatives. On a bataillé, je me permets le terme, mais en bonne intelligence, hein. Les négociations, je vous dis, ont été à bâton rompu, mais en bonne intelligence. Même si parfois, il y avait des vrais points de désaccord. Sur le recueil d'initiative, parce que quand on a poussé l'idée d'un recueil, d'abord, ça ne s'appelait pas recueil d'initiative, ça s'appelait appel à initiative. Alors, appel à initiative, appel à projet, appel d'offres, ça fléchait vraiment trop la commande publique, quoi. Comme il y a des réflexes de protection juridique pour pas avoir de soucis avec l'Europe ou avec la concurrence potentielle, puisque vous savez bien que le secteur marchand vient vite prendre les marchés solvables, hein, pour nous laisser le non solvable. Donc on a pris recueil d'initiative. Je dis pas que le terme est génial, mais voilà. Et après, la GEPA a construit une procédure. Nous, on a dit stop. Parce que quand vous lisiez la procédure construite du recueil d'initiative, alors bon, état des lieux, diagnostic, plus ou moins partagé, etc., on avait l'impression d'un parallélisme avec la démarche d'appel d'offres. On a dit à charge pour les collectivités, les acteurs associatifs sur leur territoire, de co-construire une démarche. Mais si la circulaire définit déjà toute la démarche, mais attendez, ça va tellement ressembler à l'appel d'offres que ils vont dire, mais pourquoi on s'embête avec ça ? Autant passer par la commande publique, on a l'habitude, etc. Bon, voilà. Donc, il faudra rester vigilant et dans un dialogue constructif et ouvert de manière permanente. C'est pour ça que moi, j'insiste sur notre propre responsabilité en tant qu'acteur associatif.
Mère Michel, faut que tu y ailles.
La place des collectivités territoriales, et notamment le CNFPT, la place des collectivités territoriales et notamment le CNFPT, dans la mesure où la culture marché, depuis une vingtaine d'années, on va dire depuis la loi Sapin, on fait qu'il y a une culture métier. Oui, il y a une culture métier des agents des collectivités territoriales qui sont dans cette logique-là. Et donc, quelle articulation entre la définition, enfin, quand la circulaire sortira, et l'intégration dans les constructions des formations des agents des collectivités territoriales sur cette logique. Et pas sur l'aspect technique, mais sur cette logique.
Oui. Là, il y a deux portes. Hein. Il y a deux portes d'entrée. Il y a une porte politique, une porte technique. La porte politique, moi, je la rappelle. Vive notre démocratie. La porte politique, c'est notre influence, au bon sens du terme politique, vis-à-vis des élus politiques des collectivités. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui restent décideurs. Ça ne veut pas diminuer la compétence, la capacité, y compris créative, des services. Mais chacun a sa place. Première porte, moi, je ne peux pas négliger cette porte politique. Elle est quand même essentielle pour nous, acteurs associatifs. La deuxième porte, celle que vous indiquez, c'est celle de la formation avec les aléas du CNFPT. Effectivement, comment le dire, pour ne pas le dire trop vite et trop négativement, une forme de formatage de culture de l'administration, y compris territoriale, qui pour bien faire... Il ne s'agit pas de faire de procès d'intention, on veut se border juridiquement, financièrement, etc. Là, moi, je crois qu'il faut... Nous revendiquons des formations mixtes pour qu'il y ait de l'acculturation sur la culture associative et la culture de la fonction publique territoriale. Dans le cadre de la charte d'engagement réciproque, dans le cadre des négociations sur les différents dispositifs législatifs, y compris le rapport Yves Blin, dit... Dans l'ENA, dans les universités, à l'école, il faut... apprendre, entre guillemets, c'est quoi les assos, c'est quoi l'engagement associatif. Là aussi, il y a un enjeu démocratique. Comment ? Et dans les partis politiques.
On remercie Michel.